Frères et sœurs, voilà 40 jours, au petit matin de Pâques, nous entrions avec les saintes femmes et les apôtres dans le jardin de la résurrection. Il faisait encore sombre, malgré les premières lueurs de l'aube nouvelle, et nous découvrions le tombeau ouvert et vide. Nous avons alors avancé à tâtons, et nos yeux ont simplement distingué les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place. Et nous avons entendu un jeune homme, tout de blanc vêtu, prononcer quelques mots qui nous ont sidérés. « Ne soyez pas effrayés, vous cherchez Jésus de Nazareth ?» Le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. Depuis cet instant, nous avons retrouvé celui que nous cherchions. Nous l'avons rencontré dans une maison de Jérusalem et sur le chemin d'Emmaüs, au bord du lac de Tibériade et sur la montagne où il nous avait donné rendez-vous. Et surtout, nous avons commencé à le reconnaître à la lecture des Écritures et à la fraction du pain. Aujourd'hui, nous franchissons une étape nouvelle sur le chemin qui nous entraîne à la suite du Christ ressuscité. Nous sommes encore avec les apôtres, quelque part dans la ville de Jérusalem, et nous écoutons le Maître qui nous parle. Dans un ultime discours, il nous livre son testament. Nous avions pensé ne plus jamais l'entendre après la soirée partagée au Cénacle la veille de sa mort, et pourtant c'est bien lui qui se trouve devant nous et qui nous envoie en mission. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. Mais de quoi nous parle-t-il au juste? Il se prépare à nous quitter pour toujours, et c'est maintenant qu'il ouvre un horizon qui se situe au-delà des forces humaines raisonnables. Que s'imagine-t-il donc? Par quels moyens pourrions-nous rejoindre le monde entier que nous ne connaissons pas et qui ne nous attend pas? Et de quelle manière se proclame l'Évangile? Nous risquons de bredouiller seulement quelques banalités qui ne rendront jamais compte de l'expérience brûlante qu'il nous a été donné de vivre. Et pourtant, il insiste, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. S'il choisit pour nous ces mots, c'est qu'il nous accorde sa confiance. Il nous connaît bien et il nous confie une mission audacieuse en nous promettant de nous donner la force pour la réaliser. Il part, mais il ne nous laisse pas tomber. Il monte aux cieux, mais il demeure présent au milieu de nous qui sommes rassemblés en son nom. Par son ascension, il nous élève avec lui jusqu'auprès de Dieu le Père. Le mystère de l'Ascension, que la liturgie nous permet de célébrer en ce jour, dessine un mouvement d'élévation. Sous les yeux de ses apôtres, le Seigneur Jésus monte en direction des cieux. Dans la seconde lecture, nous avons entendu saint Paul dévoiler aux Éphésiens la signification symbolique de cet événement. Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Nous retrouvons l'écho de ce double mouvement lorsque nous proclamons la foi. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Dans le langage théologique, on appelle kénose l'initiative de Dieu qui rejoint jusqu'au bout la condition des hommes, allant même jusqu'à visiter la profondeur des enfers. L'ascension constitue alors le retour à Dieu, par lequel Jésus élève avec lui l'humanité tout entière. Il existe de nombreuses icônes que vous connaissez sans doute et qui rendent visible cette initiative divine en représentant Jésus ressuscité debout sur les planches désarticulées de sa croix et tendant la main aux mortels qui remontent vers lui depuis les tombeaux dans lesquels il demeurait privé de toute lumière. Émergeant ainsi à la surface de la terre, c'est désormais vers les cieux que le Christ les dirige. Ces images qui nous viennent d'Orient expriment avec clarté le sens de l'espérance chrétienne, que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et à la pleine connaissance du Fils de Dieu. Il nous reste encore à discerner la signification de cette ascension pour nous aujourd'hui, car nous pourrions en rester à une représentation un peu irréelle, celle de Jésus disparaissant derrière les nuées célestes. Or, c'est avec son corps que Jésus est reçu en Dieu, souligne le frère Aloïs, l'ancien prieur de la communauté œcuménique de Thésée. Et il ajoute que l'ascension montre la dignité infinie aux yeux de Dieu, de l'être humain, corps, âme et esprit. Combien de fois éprouvons-nous la lourdeur de notre condition humaine, les faiblesses de notre corps, le désarroi qui peut nous envahir, les égarements de notre esprit? Mais de chaque blessure, Dieu prend soin avec patience et tendresse. Et c'est tout entier qu'il nous sauve. La fête de l'Ascension, en quelque sorte, nous rappelle l'unité de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nos jugements sont parfois sévères, les uns à l'égard des autres, y compris contre nous-mêmes. Et les raisons de la méfiance ou de la rancœur peuvent être réelles ou sérieuses. Le groupe des apôtres n'a-t-il pas été traversé par des tensions, des affrontements, des incompréhensions, des trahisons, des ruptures? Et les voilà rassemblés de nouveau, au lendemain de la résurrection, comme ils le sont encore au jour de l'Ascension. C'est Jésus qui répare les douleurs du passé et qui suscite une unité renouvelée. Pour notre part, nous sommes encore en chemin, mais comme nous l'avons chanté, nous levons les yeux vers Dieu, qui nous révèle en Jésus un avenir plein d'espérance. Amen.